Europe 1, il est 19h.
Europe 1 soir.
19h-20h. Thomas Chenel.
Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir. Trois mots, jeunesse, autorité, laïcité, les grandes annonces attendues demain lors du déplacement de Gabriel Attal à Viry-Châtillon, 100 jours après l'arrivée du Premier ministre à Matignon. Trop de polémiques et de tensions ont eu raison de la conférence de la France insoumise à Lille. Le président de l'université annule la venue de Jean-Luc Mélenchon et d'une de ses candidates aux européennes, Rima Hassan. Israël se réserve le droit de se protéger, c'est ce que répète le Premier ministre Benjamin Netanyahou à ses homologues. La situation est toujours tendue à l'Iran. Avec l'Iran, elle sera au menu des discussions du G7 ce soir. Et puis le coup d'envoi des 100 derniers jours avant les Jeux Olympiques. Le Grand Palais éphémère accueille les futurs champions à Paris ce soir. Vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous. 19h, Marlène Duré, la tendance météo.
On n'oublie pas, il ne fera pas bien chaud demain encore, Thomas, soyons clairs, il n'y aura pas de hausse de température prévue avant une dizaine de jours. Côté ciel, de belles éclaircies sur une moitié nord-ouest, des averses ou des giboulées ailleurs. Près de la Méditerranée, un ciel un peu plus changeant, devenant parfois instable, et on fera un point complet en fin de journal.
Europe 1. Pour lui aussi, il est question de 100 jours, mais ceux-ci sont dans le rétro. Gabriel Attal est Premier ministre depuis un peu plus de 3 mois. Il se rendra demain dans la ville de Viry-Châtillon en Essonne, marquée récemment par la mort du jeune Chemseddine, pour détailler un plan d'action sur l'autorité partout et pour tous, Arthur Delaborde.
Il faut une réponse forte alors que l'actualité a été émaillée ces dernières semaines par une succession de faits divers liés aux questions de laïcité et d'autorité, fait savoir l'entourage du Premier ministre. La date n'a pas été choisie au hasard puisque Gabriel Attal passera demain le cap des 100 jours à Matignon. L'idée à cette occasion, selon ses proches, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur mais d'aller de l'avant avec des pistes concrètes sur cette question de l'autorité régalienne, sujet marqueur pour Gabriel Attal. Le lieu se veut aussi symbolique, Viry-Châtillon, où le jeune Chemseddine est mort il y a 2 semaines après avoir été tabassé à la sortie du collège. Mais la visite de demain ne sera pas consacrée à cette affaire. Ça sera un déplacement de société, précise un conseiller de l'exécutif, qui ajoute que le Premier ministre va apporter des réponses au mal-être adolescent, dont l'expression ultime est l'hyperviolence nourrie par des phénomènes nouveaux comme l'entrisme islamiste, le harcèlement, la surexposition aux écrans. Il faut sortir de la logique de l'individualisme qui remplace la règle commune, résume un proche de Gabriel Attal.
Arthur Delaborde, quel bilan de Gabriel Attal après 100 jours à Matignon? Nous ferons le point avec Bruno Cotresse, le politologue, et notre invité juste après le journal. Un jeune homme de 22 ans, mortellement agressé la nuit dernière à Grande-Synthe, près de Dunkerque, dans le Nord, il a été retrouvé gisant sur un parking de la commune. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital. D'après un témoin, il aurait été frappé par au moins 3 agresseurs qui auraient également pris son portable avant de prendre la fuite. Un mineur est en garde à vue, une enquête pour meurtre en bande organisée est ouverte. Le frère de la victime, Kelvin, s'est exprimé au micro d'Europe 1.
C'est quand même la barbarie de l'humiliation. C'est très grave, ça aurait pu arriver à tout le monde. Là, malheureusement, c'était mon frère qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. On retiendra que mon frère, c'était quelqu'un de souriant, aimable, gentil, généreux. Tout le monde le connaissait ici et tout le monde garde une bonne image de lui et c'est le plus important. Tout le monde l'aimait bien, des plus petits aux plus vieux. Socialement parlant, il était très très fort, les gens l'appréciaient tous. C'est vraiment quelqu'un d'aimé. Il faut que la justice mette des peines exemplaires et des peines très très lourdes.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Florence Billard, une cagnotte ouverte par les proches atteint déjà 14 000 euros. À Bourges, un conducteur de scooter de 22 ans est toujours entre la vie et la mort après une chute. Son passager, lui, est blessé. Les policiers municipaux entendus depuis hier pour tenter de comprendre les circonstances de l'accident après un refus d'obtempérer. Le premier bilan des opérations anti-drogue, Placenet XXL, lancé mi-mars. 4 tonnes de stupéfiants, 500 armes et 20 millions d'euros ont été saisis. Au total, près de 600 suspects ont été présentés à un juge. Il n'y aura pas de conférence sur la Palestine à l'université de Lille. La réunion du leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et de la militante Rima Hassan est annulée. Comme le réclamaient de nombreux opposants politiques, les conditions ne sont plus rassemblées pour garantir la sérénité des débats, estime la présidence de l'université. Alexis de la Fontaine, ce soir à Roubaix, la France insoumise organise un meeting des insoumis qui ne se découragent pas.
Oui, Jean-Luc Mélenchon l'assure, la conférence aura bien lieu demain soir, mais dans une autre salle en dehors de l'université. C'est la troisième fois qu'une réunion du leader insoumis est interdite pour cause de troubles à l'ordre public. Alors, de nombreux militants déçus ont décidé de venir ce soir à Roubaix. Et ici, le mot d'ordre est très simple, stop à la censure. Les sympathisants insoumis veulent entendre Jean-Luc Mélenchon porter leur message anti-sioniste comme Thierry, retraité du Pas-de-Calais.
J'ai pas peur de la fin de l'État sioniste. Moi, je crois à la démocratie. Je suis pas sioniste. Hein. Le sionisme, pour moi, est quand même une forme d'exclusion de l'autre. Donc, je peux pas être sioniste. Je peux pas dire que je suis anti-sioniste. Ça n'a pas beaucoup de sens.
Dans la salle, j'ai pu apercevoir plusieurs drapeaux palestiniens ou encore des kéfiers. Et dans quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan vont tenter de convaincre cet électorat communautaire de se mobiliser le 9 juin en utilisant la cause palestinienne.
Alexis de la Fontaine en direct de Roubaix pour Europe 1. Autre réunion politique annulée hier, celle de plusieurs dirigeants politiques européens conservateurs et d'extrême droite, dont Éric Zemmour ou le Hongrois Viktor Orban. Elle a finalement pu reprendre aujourd'hui à Bruxelles après décision du Conseil d'État belge. Les policiers, presque tous réquisitionnés à Paris cet été pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Mais cette mobilisation se fera-t-elle au détriment des autres départements? C'est ce que dénonce Éric Ciotti. L'élu de droite s'inquiète du cas de la frontière italienne à Menton. Des forces mobiles contre l'immigration clandestine pourraient être tronquées. Jean-Baptiste Marty, la sécurité sera donc amoindrie sur ces points de passage?
Eh bien oui, car les 700 CRS et gendarmes mobiles déployés à la frontière franco-italienne vont quitter donc leur poste pour Paris à partir de mai, et cela jusqu'en septembre prochain. Des forces de l'ordre retirées et remplacées par des policiers locaux ou par des réservistes. Des effectifs qui, selon Philippe Calosso du syndicat national de la réserve opérationnelle de la police nationale, ne peuvent pas assurer les missions des forces de l'ordre habituellement mobilisées sur place.
Déjà, le réserviste n'a pas la possibilité d'effectuer les missions de maintien. Ensuite, le réserviste, il n'est là que pour apporter renfort. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire le métier de ce personnel-là. Il est là pour compenser, on va dire, sur des postes de seconde importance avec leur présence.
Car les principales missions sont administratives. Impossible donc d'assurer la lutte contre l'immigration irrégulière au quotidien, même avec le renfort de la police aux frontières ou encore des douanes. Une immigration d'autant plus forte en période estivale. En moyenne, entre 200 et 300 personnes tentent chaque jour de passer en France.
Et selon les informations d'Europe 1, 2500 réservistes sur les 9000 inscrits ont d'ores et déjà donné leur accord pour être réquisitionnés cet été pour les Jeux Olympiques. Dans un instant, le conflit au Proche-Orient inquiète la communauté internationale. Israël veut faire payer à l'Iran le prix de son attaque malgré les appels internationaux à la retenue. Europe 1 est sur place juste après la pause.
Europe 1 soir.
19h10 sur Europe 1. L'Union européenne a le devoir d'élargir les sanctions contre l'Iran. Plaide ce soir Emmanuel Macron. Alors que les pays du G7 s'apprêtent à se retrouver en Italie, il sera question de la crise au Moyen-Orient et du projet de sanctions contre l'Iran. Les ministres des Affaires étrangères discuteront jusqu'à vendredi sur l'île de Capri au large de Naples. En Israël, le Hezbollah libanais, allié de l'Iran, a mené une nouvelle attaque contre l'armée israélienne. Une escalade dans la région qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Wilfried de Villers, vous êtes notre envoyé spécial Europe 1 en Israël. Le Premier ministre israélien a réaffirmé son intention de riposter.
Oui, notre pays se réserve le droit de se protéger, redit Benjamin Netanyahou. Israël ripostera bien, même si les modalités de cette riposte sont toujours au cœur d'intenses négociations au sein du cabinet de guerre israélien. Au même moment, l'Iran faisait défiler ses soldats aujourd'hui, répétant sa menace qu'elle apporterait une réponse féroce à toute riposte. Des déclarations belliqueuses alors que la communauté internationale presse pour une solution diplomatique après les frappes iraniennes du week-end dernier. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, en visite en Israël aujourd'hui, a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue. Elle était aux côtés de son homologue britannique David Cameron. En toile de fond, cette inquiétude croissante d'un embrasement régional, et la tension est à son comble. Le nord d'Israël, vous en parliez Thomas, a été une nouvelle fois lourdement frappé par des drones explosifs et des missiles aujourd'hui, lancés depuis le Liban par le Hezbollah, allié de l'Iran. Les frappes visaient une base militaire. Elles ont fait 14 blessés, dont 6 graves.
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avertit les dirigeants de l'OTAN que son pays a besoin de mesures immédiates pour renforcer ses défenses antiaériennes face aux bombardements russes après la frappe qui a fait 17 morts à Tchernigiv, au nord de l'Ukraine. Est-ce que les voitures électriques seront-elles des voitures jetables? Elles sont tellement pleines de technologies qu'elles deviennent impossibles à réparer. L'association Halte à l'obsolescence programmée reproche aux constructeurs auto des pratiques similaires à celles des fabricants de smartphones, d'électroménagers. Dans son rapport, l'association met en évidence trois failles principales, Baptiste Morin.
Oui, la première faille concerne le cœur de ces véhicules. Hop souligne le manque de garantie sur la fiabilité des batteries, mais aussi sur leur réparabilité. Certaines sont indémontables et donc irréparables, selon l'association. Or, la batterie représente 30 à 40% de la valeur de la voiture électrique. Deuxième faille, ce que les experts appellent le gigacasting, une méthode de fabrication plus économique de certaines voitures électriques que nous explique Laetitia Vasseur, la déléguée générale de Hop.
En fait, on fait un monobloc d'une pièce géante, là où avant on avait plein de petites pièces plus faciles à réparer et à démonter. Donc là aussi qui rend la réparation économiquement impossible potentiellement.
Troisième faille, le risque d'obsolescence logicielle sur des voitures beaucoup plus équipés informatiquement que les véhicules thermiques. Tout cela pour Hop remet en cause l'émergence d'un marché d'occasion de la voiture électrique.
Est-ce qu'on pourra acheter ces véhicules dans 10 ans d'occasion, sachant qu'ils ne sont pas forcément assez fiables, ni réparables, ni durables? Rien n'est moins sûr.
L'association fait plusieurs recommandations. La création d'un indice de réparabilité sur les voitures, mais aussi la mise en place de normes autour de la fabrication des batteries en Europe.
J-100, ça y est, nous y sommes, avant les Jeux Olympiques Paris 2024, réunis dès ce soir au Grand Palais éphémère, juste à côté de la Tour Eiffel, une centaine d'athlètes pour lancer le dernier compte à rebours avant la cérémonie d'ouverture. Martin Lange, vous êtes sur place pour Europe 1. Martin, on a des athlètes, peut-être même des futurs champions, ils sont tous dans les starting blocks.
Et oui Thomas, une centaine d'athlètes olympiques impatients réunis au Grand Palais éphémère. Alors si vous êtes parisien, vous connaissez peut-être, c'est une grande halle, 10 000 mètres carrés, située sur le Champ de Mars, juste en face de la Tour Eiffel. Elle accueillait jusqu'à présent les expositions du Grand Palais pendant ses travaux. Et bien cet été, dans 100 jours exactement, elle accueillera des épreuves olympiques, la lutte et surtout le judo, grand pourvoyeur de médailles. La Marseillaise devrait donc résonner dans ce Grand Palais éphémère. En attendant, vous l'avez dit Thomas, la pression monte du côté des athlètes, bien conscients que l'événement d'une vie approche. Écoutez la boxeuse Estelle Mosley, championne olympique à Rio en 2016.
C'est réel depuis un moment déjà. C'est très réel depuis que je me suis qualifiée au mois de juin. Donc c'est juste que ça s'intensifie, ça rajoute la pression qu'il faut pour être concentrée, parce qu'on voit tout le monde, on se dit bon, les Jeux c'est quand même dans 100 jours, c'est bientôt. 100 jours ça passe très très vite quand on s'est entraîné pendant des mois, 100 jours finalement c'est rien du tout.
Entre excitation et pression, même les plus expérimentés reconnaissent que ces Jeux ne sont pas comme les autres. À l'image de Mélina Robert-Michon, doyenne de l'équipe de France, déjà 6 Olympiades au compteur.
On sait que l'année olympique, il y a toujours plus de sollicitations, il y a plus de demandes. Mais là, je crois qu'on est sur du x100, x1000 par rapport à une année olympique classique. Et pareil sur le grand public, c'est vrai que ça ne passe pas un jour sans que quelqu'un me dise « Alors, comment ça va? Ça se prépare bien ?» On sent que les gens ont hâte aussi que ça commence. C'est cool, ça fait du bien.
Mélina Robert-Michon, qui à l'instar d'Estelle Mosley pourrait mener la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, les athlètes sont en train de découvrir les tenues qu'ils porteront lors de cette cérémonie. Des tenues imaginées par le couturier Berluti et bien sûr avec un col bleu-blanc-rouge, Thomas.
Merci Martin Lange, en direct du Grand Palais éphémère pour Europe 1 ce soir. D'ailleurs, le pass transport pour les Jeux Olympiques est en vente depuis ce matin sur le site Île-de-France Mobilité. Il permet de prendre tous les transports d'Île-de-France. Il coûte 16 € par jour. 70 euros par semaine, c'est cher, mais moins que le ticket à 4 € au guichet pendant les Jeux Olympiques. Rien ne bouge en revanche pour les détenteurs d'un pass Navigo. Et puis, Joule a fait planter le site internet du Stade de France ce midi. La reine ouvrait sa billetterie pour le concert du rappeur marseillais prévu en avril 2025. 1 million de fans connectés, une billetterie saturée. Le Vélodrome et le Stade de France ont affiché complet en un temps record. Quelques minutes après d'ailleurs l'ouverture de ces billetteries, on pouvait déjà trouver sur le Bon Coin des billets jusqu'à 500 €. Vous êtes sur Europe 1, il est 19h, passé de 16 minutes, comme chaque jour, chaque soir, le point sur les marchés avec Claire Lemaître de boursier.com. Claire, le CAC reprend un peu de terrain ce soir.
Oui, c'est du vert pour le CAC qui rate tout de même la marche des 8000 points. Il a été freiné notamment par le repli des marchés à Wall Street et il reprend donc 0,6% à 7982 points. Un CAC 40 soutenu par le luxe, le numéro 1 mondial LVMH a publié des ventes trimestrielles jugées rassurantes dans un contexte de crainte crainte pour le secteur. LVMH bondit de 2,8%. Bonne performance qui dope aussi Hermès avec un titre en hausse de 2,3%. Plus 0,8 pour L'Oréal et un petit plus 0,2 pour Kering. Ailleurs en Europe, les indices ont terminé en légère hausse. Plus 0,3 pour Londres, plus 0,1 pour Francfort et donc plus 0,6 à Paris pour le CAC 40, 7982 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. On vous retrouve demain. La météo, Marlène Duré. Demain justement un temps frais avec encore des averses.
Et oui, de l'air bien frais en provenance du nord de l'Europe circule sur le pays. Une séquence qui a commencé hier et qui va durer encore une dizaine de jours. Ça, c'est dit. Ce qui a pour effet de faire tomber la neige en montagne à basse altitude, 400 mètres pour les Vosges par exemple, 600 ou 700 mètres du Jura aux Alpes du Nord, un petit peu plus haut pour les Pyrénées et le relief Corse. Et cet air froid en altitude favorise aussi de l'instabilité sur une grande partie du pays, alors sous forme d'averses ou de giboulées et de passages nuageux entrecoupés d'éclaircies. Il y aura quand même des régions qui vont profiter d'une journée ensoleillée, fraîche mais ensoleillée. Eh bien, le matin, ça va concerner une zone allant de la Bretagne et du Pays Nantais à la frontière franco-belge, en passant par la Normandie, l'Île-de-France, l'Anjou. Et puis, ces belles éclaircies vont s'étaler au fil des heures sur une bonne partie du centre-val de Loire, de la Champagne, de la Lorraine, de Lyon, mais aussi du Poitou-Charentes jusqu'au bassin d'Arcachon. Et puis, un petit mot quand même pour la Méditerranée. Le ciel sera partiellement dégagé par les vents et le temps va devenir quand même un petit peu mitigé. En journée.
En ce qui concerne les températures, on se couvre bien demain matin.
Oui, des gelées sont évidemment possibles près des massifs, mais en plaine, on frôlera aussi parfois le 0 degré dans le Nivernais, par exemple, ou vers la Champagne-Ardenne. Notez un petit degré à Nancy, 5 à Paris demain matin, 8 à Marseille, jusqu'à 11 à Nice. Et puis l'après-midi, prévoyez 5 à Morteau dans le Doubs, 9 degrés dans le Puy-de-Dôme, 10 ou 11 degrés en Alsace, 11 dans le Cotentin, 11 à 13 en Vallée-du-Rhône, 13 à Lille et Toulouse. Il fera 14 à Paris et à Tours, 15 à Nantes, 16 à Bordeaux, 17 à Montpellier et 18 du côté de Bastia.
Merci Marlène Duré. Dans un instant, comment abriter les expulsés du plus grand squat de France après l'évacuation ce matin? La répartition des déplacés inquiète et provoque même la colère de certains maires chargés de les accueillir. On en parle ensemble avec Bernard Carayon, maire de Lavaur. Il sera en direct sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h21 sur Europe 1, le plus grand squat de France à Vitry-sur-Seine a été évacué ce matin. Il a accueilli jusqu'à 450 migrants. Les délogés vont être mis à l'abri près de Paris ou en région. Bonsoir Bernard Carayon. Maire Les Républicains de Lavaur dans le Tarn. Pourquoi est-ce que vous vous opposez à cette politique de répartition des délogés?
Oh, je voudrais d'abord vous dire que l'histoire est étrange parce que à la veille de Noël 1980, le maire communiste de Vitry avait attaqué au bulldozer un foyer d'immigrés de Maliens. Et ce maire avait été soutenu d'ailleurs par Georges Marchais, qui était à l'époque le premier secrétaire du Parti communiste, qui avait écrit d'ailleurs au recteur de la mosquée de Paris que la poursuite de l'immigration posait de graves problèmes et qu'il fallait arrêter l'immigration officielle et clandestine. Moi, je trouve que Georges Marchais avait tout à fait raison et le Parti communiste avec lui à l'époque. Moi, je trouve que la politique du gouvernement, en la matière, elle est à la fois inhumaine, hypocrite et dangereuse. Elle est inhumaine d'abord parce que on déménage pas des migrants, qu'ils soient clandestins ou non, comme des meubles. C'est hypocrite ensuite. Parce que s'ils sont dans la rue ou dans un squat, donc de manière irrégulière, c'est parce que le gouvernement leur a ouvert nos frontières, leur a ouvert notre carnet de chèques, mais pas les logements nécessaires. Il faut dire qu'en France, il y a une crise du logement terrible. On n'a jamais aussi peu construit de logements que ces derniers temps. Moins de 300 000 l'an dernier, en chute de 22%, je crois. 40% d'ailleurs des immigrés eux-mêmes vivent en HLM contre 12% à peu près pour les Français. C'est-à-dire qu'il y a une vraie tension sur le marché du logement, mais il n'y a aussi aucune politique migratoire. Nous n'avons aucune capacité en France à intégrer les 500 000 étrangers auxquels on délivre des titres chaque année. 2 millions depuis 4-5 ans, 2 millions. Il y a très peu d'expulsions de gens qui sont clandestins et très peu aussi d'étrangers qui sont délinquants. Je vous rappelle que 25% à peu près de la population carcérale est de nationalité étrangère. Bon.
En ce qui concerne Bernard Carayon, le déplacement donc de ces expulsés, de ces migrants, que répondez-vous aux autorités qui expliquent qu'il faut désengorger les structures parisiennes?
Écoutez, c'est encore une fois, on veut faire payer à la province l'inefficacité ou l'absence de politique migratoire. Vous savez, en province, comme à Paris d'ailleurs, tout le monde connaît aussi la surdélinquance des populations étrangères, parce que ce sont des personnes venues de pays où on n'a pas le même rapport à la loi, aux femmes, à l'ordre, au respect de la loi, chez nous. D'après le service des statistiques du ministère de l'Intérieur, 63% des agressions sexuelles en Île-de-France sont commises par des étrangers. 40% des vols avec violence ou des cambriolages. Donc tous les Français connaissent ces chiffres. Et donc ils sont inquiets, que ce soit chez moi dans le Tarn, que ce soit en Gironde demain, où devraient être expulsées ces personnes. Encore une fois, dans des conditions qui ne sont pas dignes, selon moi.
Tenez, Bernard Carayon, restez avec nous. Je voudrais qu'on accueille sur Europe 1 un auditeur. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir monsieur.
Nous sommes en Moselle avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces opérations de déplacement, de répartition des expulsés, en l'occurrence des migrants du plus grand squat de France évacués ce matin ?
Oui, alors d'abord, je voulais vous remercier de me donner la parole. Et je rejoins tout à fait d'abord monsieur Carayon dans son raisonnement. Et j'irai, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on évacue. C'est une démarche immédiate qui vise à donner une bonne image, à désengorger Paris, à essayer en fin de compte de montrer quelque chose qui ne correspond pas à la réalité quotidienne des Parisiens. Surtout, mais ce qui m'ennuie surtout, c'est que ces hommes politiques nationaux qui évacuent et qui en fin de compte déplacent les populations n'ont aucune vision à moyen ni à long terme, encore moins à long terme. Qu'allons-nous faire de ces personnes que l'on déplace ? Comment vont-ils s'intégrer ? On peut les loger, on peut les loger éventuellement, mais il faut ensuite qu'ils s'intègrent en France. Il faut qu'ils puissent. On ne peut pas les maintenir dans la misère comme on le fait depuis maintenant trop longtemps. Il faut vraiment essayer d'anticiper, essayer de réfléchir et ne pas uniquement faire ce que j'appelle du cinéma médiatique.
Alors de la Moselle au Tarn, Bernard Carayon, vous entendez ce que nous dit Marc ? Est-ce que vous avez le sentiment que ces déplacements, ce sont des sas où il y a une vraie volonté peut-être de les installer quelque part, ces déplacés ?
Non, c'est du raisonnement à court terme. On veut encore une fois, si je puis dire, nettoyer de manière hypocrite la capitale avant les Jeux Olympiques, lui donner un visage qui soit convenable, si je puis dire, pour les touristes du monde entier qui vont venir chez nous. Mais on ne règle aucun des problèmes de fond. Vous savez, 50% des centres d'urgence, enfin des personnes qui sont dans les centres d'urgence en France, 50% sont occupés par des clandestins ou par des personnes qui demandent le statut de réfugié, dont on sait que 60% d'entre eux seront déboutés. Ces centres d'urgence, ils sont destinés en particulier aux femmes qui sont victimes de violences, et notamment de violences conjugales. Bon. Les logements, encore une fois, on construit très peu de logements en France. Et les lois environnementales ont réduit aussi les surfaces qui peuvent être utilisées justement pour construire des logements. C'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Les emplois, on nous dit qu'il y a des métiers en tension, mais attendez, on ne va pas me faire croire qu'avec 500 000 étrangers qui arrivent chaque année, on ne pourvoit pas aux métiers en tension. Tout cela est encore une fois très hypocrite, et ça se fait sur le dos des Français, encore une fois.
Que peuvent faire les maires face à ça ?
J'insiste parce que c'est un sujet tabou sur lequel l'État et le gouvernement ne fait pas exception, le gouvernement d'aujourd'hui ne fait pas exception, et très hypocrite sur le sujet. Il y a une surdélinquance étrangère, et les gens ont peur, je vous assure, et les gens ont peur.
Est-ce que les maires peuvent s'opposer face à ça ? Est-ce que vous avez les moyens de dire non à ces déplacements ?
Moi, dans mon département, le préfet a compris qu'il n'était pas question pour moi d'accueillir un seul migrant supplémentaire. Seuls sont mobilisables, si je puis dire, les maires qui en font la demande. Mais j'observe que dans mon département, le préfet a refusé de m'indiquer le nom des communes où l'on allait accueillir une cinquantaine d'immigrés qui viennent du Soudan et d'Afghanistan, qui sont des pays certes en guerre, dont la culture n'est pas tout à fait la culture occidentale.
Des pressions qui sont faites contre les maires qui refusent ?
Écoutez, moi je suis, comme beaucoup de maires, je crains que ceux qui refusent ce type de transfert soit sanctionné sous la forme de subventions qui seraient soit abandonnées, soit minorées, soit de procédures administratives qui deviendraient du jour au lendemain plus tatillonnes. Beaucoup de maires, d'ailleurs, refusent de s'exprimer sur ce sujet. Parce qu'ils ont peur justement de mesures de rétorsion.
On vous a entendu sur Europe 1. Merci beaucoup Bernard Carayon, maire Les Républicains de Lavaur dans le Tarn, d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à Marc, à nos auditeurs. Marc qui nous appelait de Moselle. 19h29 sur Europe 1. Dans un instant, le journal permanent, le rappel des titres. Et puis, la France insoumise qui crie à la censure après l'annulation de la conférence sur la Palestine prévue demain à l'Université de Lille. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h32 sur Europe 1. Son interdiction était demandée. La conférence sur la Palestine prévue demain à Lille 3 a été annulée par l'université en cause. L'association organisatrice Libre Palestine qui appelle à la destruction de l'État d'Israël. Gabriel Attal se rendra demain à Viry-Châtillon où le jeune Chemseddine, âgé de 15 ans, est mort il y a 2 semaines, passé à tabac près de son collège. Un déplacement sur le thème de l'autorité 100 jours après sa nomination à Matignon. Selon les informations d'Europe 1, le Premier ministre devrait faire des annonces sur la laïcité, l'autorité à l'école ou la justice des mineurs. Le plus grand squat de France évacué ce matin à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. 250 policiers et gendarmes mobilisés pour cette opération d'évacuation de plusieurs centaines de migrants. La plupart demandeurs d'asile sont fortement incités à rejoindre les structures d'accueil provisoires à Bordeaux et en Val-de-Loire. Le bilan des opérations PlaceNet XXL, lancées en grande pompe à Marseille le mois dernier, suivi d'autres opérations dans le Nord, en région parisienne et lyonnaise, ainsi qu'à Dijon et Clermont-Ferrand. Elles ont donné lieu à 3800 interpellations, plus de 500 armes saisies, 4 tonnes de drogue et 20 millions d'euros d'argent liquide pour près de 600 présentations à un juge et 186 mandats de dépôt. La suite des quarts de finale de Ligue des Champions ce soir à 21h, le Bayern Munich affronte Arsenal, Manchester City reçoit le Real Madrid. Qualifié hier après avoir battu le FC Barcelone 4-1, le PSG affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale.
19h-20h, Europe 1 soir.
La conférence annulée de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, cette activiste franco-palestinienne. Tous les deux devaient participer à une réunion à l'université de Lille, finalement interdite. Dans un communiqué, la fac estime que les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats. Nous sommes en direct avec Samuel Lejoyeux. Bonsoir. Excusez-moi, nous allons venir à ce sujet sur la conférence annulée à l'Université de Lille. Mais tout d'abord, nous voulons vous parler de ce déplacement demain de Gabriel Attal, le Premier ministre, qui sera à Viry-Châtillon sur les thèmes de la jeunesse et de l'autorité. Gabriel Attal entend faire un premier bilan de son action. Et nous sommes avec et nous accueillons sur Europe 1 Bruno Cotrèze. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue enseignant à Sciences Po. Bruno Cotrèze, pourquoi Gabriel Attal a-t-il besoin d'insister sur ses 100 premiers jours ?
D'abord, les 100 jours, c'est un marqueur assez mythique de la vie politique française. C'est un grand classique de la communication politique. On a eu des premiers ministres qui disaient vouloir changer la France en 100 jours. Donc c'est quelque chose qui, dans l'imaginaire politique, est toujours un rendez-vous très important. Mais pour notre jeune premier ministre, c'est un rendez-vous peut-être encore plus important que pour un autre, parce qu'il a été nommé avec une mission fondamentale, régénérer le macronisme. Et régénérer le macronisme, eh bien évidemment, il y a besoin d'un point d'étape. On a besoin de savoir où est-ce qu'on en est, quelles sont, au fond, les grandes directions dans lesquelles le Premier ministre s'est engagé, et tout ceci est-il susceptible, eh bien, de donner un nouveau souffle à ce second mandat d'Emmanuel Macron.
Le Premier ministre a imposé la notion régalienne de sécurité comme une de ses priorités. Est-ce qu'il y a déjà des résultats, Bruno Cotrèze ?
Difficile, 100 jours, c'est quand même très court pour avoir des résultats, d'autant qu'il y a tout un tas d'enjeux qui arrivent, en particulier que nos Jeux Olympiques soient une vraie réussite sur le front de la sécurité. Et puis on voit que la nomination d'un Premier ministre, fut-il au fond très ambitieux, jeune, dynamique, avec cette perspective du retour de l'autorité, on a vu que notre actualité a été marquée néanmoins par une série de drames, et c'est particulièrement ça que le Premier ministre va devoir gérer, c'est-à-dire que ne s'installe pas dans le climat, dans l'opinion, dans le pays, le sentiment que tout est en train de se dérégler sur le front de la sécurité.
Il avait promis, Gabriel Attal, d'emmener l'éducation nationale avec lui à Matignon. Il y a eu depuis des drames à l'école. Samara, Chemseddine, est-ce que ça remet en cause l'efficacité de son action ?
Non, évidemment, on ne peut pas non plus, à partir de quelques cas tellement dramatique, vraiment dramatique. Mais on ne peut pas, à partir de ces cas, juger de l'action du Premier ministre. L'action du Premier ministre, c'est une perspective beaucoup plus large. C'est le retour de l'autorité dans le système éducatif, mais aussi l'efficacité, qui est un mot-clé qui est très important pour le Premier ministre. Le fait que les profs soient remplacés lorsqu'ils sont absents, par exemple, c'est aussi un engagement du Premier ministre. Et puis tout un tas, sans aucun doute, de réflexions sur les questions de l'orientation, de l'apprentissage, voilà, d'autres sujets sur lesquels on s'attend à ce que le Premier ministre nous donne un certain nombre de réponses.
Vous le dites, il est présent sur le thème de l'éducation nationale, mais on l'a vu également dès le début se déplacer sur l'agriculture, intervenir également sur le budget. Vous, Bruno Cotrez, vous analysez un Premier ministre omniprésent sur tous les sujets.
Oui, ça c'est une des marques de Gabriel Attal. Il veut être à peu près sur toutes les balles, on pourrait dire, dans un vocabulaire tennistique. Il veut être présent partout, il communique beaucoup, il est sur tous les fronts. Et le Premier ministre veut nous montrer, eh bien, que lui, il s'occupe de tout, au fond, à la fois des grandes orientations, des grands choix, mais aussi la mise en œuvre pratique, allant beaucoup sur le terrain. C'est aussi une des marques de fabrique du Premier ministre, aller beaucoup sur le terrain, beaucoup concerter, beaucoup dialoguer. Donc il faudra voir si bien évidemment, eh bien, cette marque caractéristique du Premier ministre donne ses fruits, donne des résultats.
Mettre en scène, comme il va le faire demain en grande pompe, ces 100 jours à quelques semaines des élections européennes, est-ce que Gabriel Attal incarne toujours, on avait parlé de lui, comme étant la meilleure arme anti-Bardella ?
Alors pour le moment, force est de constater que sondage après sondage, eh bien ça ne marche pas pour le moment. On n'a pas vraiment de match qui s'est installé entre Gabriel Attal et Jordan Bardella pour tout un tas de raisons, qui échappent d'ailleurs en partie au Premier ministre. Le chef de l'État a lui-même donné une tonalité très présidentielle à cette campagne des élections européennes, en situant au cœur de la campagne des élections européennes la question de l'Ukraine, de la Russie, en présentant le Rassemblement national comme un allié objectif de la Russie. Mais le chef de l'État, du coup, a ramené la campagne électorale vers lui, vers son fameux domaine réservé. Vous savez ce qu'on appelle le domaine réservé, hein, dans la Ve République, c'est-à-dire la politique internationale, la représentation de la France à l'étranger. Et dans tout ceci, eh bien, le Premier ministre n'est pas arrivé pour le moment à trouver sa tonalité à lui, sa place à lui, son thème à lui dans cette campagne des élections européennes.
On a vu d'ailleurs ce soir Emmanuel Macron apparaître devant les télévisions avec en arrière la candidate Valérie Ayé à la tête de liste aux européennes. Que pensez-vous, quel crédit donnez-vous, Bruno Cotrez, aux différends qui existeraient entre le Premier ministre et le Président ?
Vous savez, les différends entre l'Élysée et Matignon, c'est un grand classique, c'est du classico, si je puis dire, de la Ve République. Il y a deux personnages qui incarnent l'exécutif dans nos institutions de la Ve République, et deux personnages à forte personnalité en l'occurrence, qui incarnent l'exécutif. Forcément, il y a forcément des moments qui doivent être des moments, peut-être pas de tension, mais en tout cas d'appréciation différente, peut-être aussi de stratégie. Emmanuel Macron progressivement se rapproche de plus en plus de la fin de sa vie politique, alors que Gabriel Attal se rapproche de plus en plus peut-être du moment où il va vouloir prendre son envol dans la vie politique française.
De la fin de sa vie politique ?
Ben oui, parce que le chef de l'État ne pourra pas se représenter en 2027. Certains lui prêtent le projet de se représenter un jour. Mais vous savez ça, la stratégie du retour, ça ne marche pas régulièrement dans la vie politique. Emmanuel Macron continuera sans doute de jouer un rôle politique.
Vous n'y croyez pas.
On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, un rôle politique aussi essentiel que celui qu'il a eu 10 ans de présidence de la République. Sans doute qu'on peut voir que progressivement se rapproche la fin de cette grande période d'une décennie de macronisme.
Pour revenir donc sur Gabriel Attal, on a vu que sa cote de popularité a chuté. Ça veut dire que la durée de rayonnement d'un Premier ministre, elle s'épuise un peu plus à chaque locataire ?
Alors vous savez, ça c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de pays, pas seulement en France. Tout se passe comme si, eh bien, ce qu'on appelait à une époque la lune de miel, c'est-à-dire l'idée d'une période pendant laquelle ceux qui étaient nouveaux, responsabilités à la présidence, à Matignon, eh bien, ils avaient une sorte d'effet de catapulte pendant plusieurs mois. D'une certaine manière, ils réussissaient tout ce qu'ils touchaient, et l'opinion faisait preuve de bienveillance, d'indulgence par rapport à eux en disant il faut voir ce que ça va donner. Eh bien, on voit que dans de très nombreux pays aujourd'hui, la lune de miel, ça dure très 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 peu de temps. Les temps sont difficiles. Nous vivons une époque de crise très importante à répétition, et les exécutifs aujourd'hui deviennent assez rapidement peut-être pas impopulaire tout de suite, mais en tout cas leur crédit de popularité est une denrée très 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 fortement périssable aujourd'hui.
Vous placez ça sur l'exigence des électeurs, des citoyens, ou sur la qualité des politiques?
Non, je pense que surtout là, le temps va très vite aujourd'hui. Nous vivons des périodes à haute intensité, avec beaucoup de crises, beaucoup d'éléments dramatiques, avec le retour de la guerre, une période extrêmement anxiogène, angoissante pour tout le monde. Eh bien, dans cette période, dans ce type de période, c'est vrai que les exigences sont très importantes des citoyennes et des citoyens, et en particulier en France, où une véritable crise systémique, structurelle, de confiance dans la politique s'est installée depuis maintenant bien longtemps.
Et alors justement, on dit que la parole d'Emmanuel Macron n'imprime plus, qu'elle est démonétisée. Est-ce que c'est aussi le cas pour Gabriel Attal, qui doit mettre en scène demain ses 100 jours ?
Alors c'est sûr que pour le jeune Premier ministre, il y a là une donnée qui est très 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 importante, arriver à faire exister ce que certains avaient peut-être rapidement qualifié de « attalisme ». Aujourd'hui, il est un peu difficile de savoir qu'est-ce que c'est que le attalisme. On voit que Gabriel Attal s'inscrit assez clairement dans les pas d'Emmanuel Macron sur de très nombreux aspects. De temps en temps, il nous rappelle aussi Nicolas Sarkozy, l'omniprésence médiatique, le fait de vouloir faire l'actu en permanence. Mais tout ceci ne constitue pas, au fond, une définition de ce que serait le attalisme. Il va rester au Premier ministre quelques mois, au fond, pour nous montrer qu'est-ce qui le différencie aussi peut-être d'Emmanuel Macron. Et ça sera une dimension très importante pour lui permettre de durer, parce que nous le savons tous. Eh bien, le poste de Matignon, c'est un poste qui est très, très, très exposé et où il est assez rare, au fond, de finir très populaire.
Alors justement, les exigences des citoyens. Bruno Cotresse, je vous propose qu'on accueille un auditeur. Philippe est avec nous en direct du Rhône. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous, ces 100 jours de Gabriel Attal, qu'est-ce que vous en retenez ?
Je retiens pas grand-chose dans un système où c'est le président qui est partout omniprésent, hein, le président et son secrétaire général, et que le Premier ministre, lui, il a un rôle plus ou moins secondaire, il n'est pas à l'international. Sur l'économie, il a quand même Bruno Le Maire. Non, je trouve que, oui, c'est un coup, le nommer un jeune, c'était le nommer, mais je crois que dans la pratique, là, maintenant, de la Ve République, le Premier ministre... Surtout s'il n'a pas de légitimité de par son jeune âge et son expérience. On lui veut pas de mal, mais on pense pas qu'il soit responsable de quoi que ce soit. Alors, sur l'éducation, il est sur l'éducation, ben, il y a un ministre de l'éducation, donc il pourrait lui laisser le job, mais s'il lui laisse pas le job, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Non, je pense que, il a pas les coups des franches, toute façon, et le patron, c'est le président.
Vous avez des attentes, Philippe, du discours de demain? Qu'est-ce qu'il pourrait dire?
Si, sur l'autorité et vous savez, l'autorité, ça se décrète pas. Alors, il va rappeler qu'il faut de l'ordre à l'école, qu'il faut de l'ordre dans la rue, qu'il faut, etc. Mais ça se décrète pas, l'autorité. Hein. Là aussi, il faut mettre en place un plan. Alors, peut-être qu'il en a un. Je sais pas si... Mais voilà, je pense que des grandes décisions ne se prennent pas à Matignon. Donc, il y a des recadrages. D'ailleurs, je regarde un peu dans le journal. Dès qu'il y a un ministre qui a un peu d'autonomie, il se fait recadrer par le président. Enfin bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'a pas de latitude, de toute manière.
Merci, Philippe.
Et je pense qu'il est quand même... Voilà, et puis je pense qu'il n'a peut-être pas tout à fait la légitimité auprès de ses collègues.
Merci,
voilà.
Merci Philippe. Bruno Cotresse, vous entendez cette accusation en légitimité et surtout le fait que demain, qu'importe ce que pourra dire Gabriel Attal, eh bien, il aura du mal à convaincre.
Oui, notre auditeur est un fin analyste hein, de la vie politique. Il a bien repéré effectivement cette dimension qui est peut-être structurelle de la Ve République. C'est quand même le président qui domine le couple exécutif, et en particulier dans la période que nous sommes en train de vivre, avec une dimension internationale tellement tragique et tellement importante. On voit que le Premier ministre, après une envolée au début de sa nomination, où il avait une cote de popularité très importante, on a eu un peu de mal derrière à voir effectivement exactement quelle va être la marque de fabrique du Premier ministre. Et c'est vrai qu'il y a là un enjeu pour lui très important dans cette France tellement au fond défiante par rapport à l'avenir, tellement sous emprise de sentiments anxieux, tellement inquiète du lendemain. Il faut dire que les temps sont très 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 difficiles. C'est vrai que le Premier ministre axe beaucoup sa communication sur cette notion d'autorité, en disant ben dans des périodes aussi compliquées, aussi dures que celles que nous vivons, il est essentiel que les institutions puissent inspirer la confiance. Et pour que les institutions inspirent la confiance, il faut aussi que les citoyens respectent les institutions. Comme l'a résumé le Premier ministre, si on salit, on nettoie. Alors ça, c'est vrai que c'est un bon rappel, mais en même temps, ça ne constitue pas un corpus idéologique qui identifie très clairement quelle est, au fond, la grande vision pour notre pays de ce si jeune Premier ministre.
Merci Bruno Cotterès, politologue, chercheur au CNRS, chercheur CNRS au Savipov, enseignant à Sciences Po. Merci pour votre éclairage et merci à nos auditeurs et Philippe qui nous appelait du Rhône. Vous êtes toujours sur Europe 1. La conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan sur la Palestine demain est annulée. L'Université de Lille estime que les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats. Nous serons avec le président de l'UEJF dans un instant. 19h49 sur Europe 1, cette conférence sur l'actualité de la Palestine annulée. Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, l'activiste franco-palestinienne, ne sont pas les bienvenus à l'Université de Lille. La présidence estime que les conditions ne sont plus réunies pour garantir des débats sereins. Bonsoir Samuel Lejoyeux.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Vous avez souhaité que cette conférence soit annulée. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, on n'a pas particulièrement souhaité, en tout cas on n'a pas appelé à l'annulation de cette conférence. On a simplement exprimé à plusieurs reprises le fait que cette sorte de tournée de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines dans les universités, où il va à chaque fois non pas exprimer de la compassion envers les Palestiniens, c'est pas ça le souci, mais attaquer, pointer du doigt spécifiquement les étudiants juifs et l'UEJF, comme si c'était si dangereux d'être sioniste, ça finalement vient valider les actions de violence et même les encourager, les actions de violence à l'endroit des étudiants juifs qui ont lieu quasi quotidiennement dans les universités françaises. Donc nous simplement, effectivement, à plusieurs reprises, dans plusieurs universités, nous sommes venus faire des happenings, à chaque fois de façon pacifiste, soit dit en passant, notamment à Créteil, ça avait beaucoup tourné l'image d'un étudiant de l'UEJF qui avait été sorti par la sécurité après que nous ayons brandi une banderole LFI, parti antisémite et pro-Poutine. Nous assumons ces actions. Nous assumons le fait d'aller apporter de la contradiction à un discours qui met aujourd'hui en danger les étudiants juifs dans les universités, qui vient troubler la sérénité d'études d'étudiants dans les universités françaises. Voilà, les universités françaises n'ont pas vocation à être la place de ce genre de meeting.
Samuel Lejoyeux, les universités ne sont pas un lieu pour des meetings politiques.
C'est des lieux de débat. C'est des lieux de politisation, mais le problème, c'est que la France insoumise, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent finalement troubler ce jeu-là du débat et de la réflexion, en pointant du doigt avec une telle violence toutes les personnes qui viennent se confronter finalement à leurs opinions, en nous traitant systématiquement de racistes et de fascistes, en pointant du doigt les étudiants juifs, sauf ceux qui vont faire le choix d'exprimer leur antisionisme, c'est quelque chose qui n'est plus dans le champ finalement du débat politique serein comme il doit l'être dans l'université, mais qui encourage les discours et les actes de haine. Donc c'est bien ça le souci. Oui, les universités ont vocation à être des lieux de débat politique, mais ils n'ont pas vocation à être l'espace où on va finalement venir valider des idées qui sont dangereuses et mettent en péril la sérénité de certains étudiants.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui taxent cette annulation de censure ?
Écoutez, moi, sur la question de l'annulation, je suis pas préfet, je suis pas président d'université, j'ai rien à en dire, j'ai jamais demandé l'annulation d'une quelconque conférence de Jean-Luc Mélenchon, donc j'ai envie de dire, voilà, dont acte, je le constate, c'est le choix du président d'université. Ce que je sais, c'est que des mesures doivent être prises pour que cet antisémitisme issu de la haine d'Israël et qui est encouragé par la France insoumise aujourd'hui, qui est en tout cas validé par la France insoumise, il faut qu'il cesse. Si cela doit passer par des annulations, écoutez, très bien, mais ça peut passer par tout un tas d'autres choses. En tout cas, moi je dis, il y a un coup d'arrêt à mettre dans ces discours de plus en plus violents de la part de Jean-Luc Mélenchon, maintenant de Rima Hassan, en plus qui est là avec, et qui quand même nie le droit d'exister de l'État d'Israël, à l'initiative d'une association qui parlait de libération, d'actes de libération le 9 octobre, hein, juste après le 7 octobre. Donc c'est ces discours-là, moi, que je dénonce. C'est pas, je suis pas là à juger qui doit parler ou qui doit pas parler dans une université. C'est pas mon rôle. Et je suis pas, encore une fois, le président de l'Université de Lille. Ce qui est très dangereux, par contre, je crois, c'est l'attitude des insoumis qui disent « Regardez, c'est de la faute des étudiants juifs si on a été annulé dans l'université. »
Justement, Samuel Lejoyeux, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Quelle est l'ambiance au sein de l'université de Lille ? Comment vivent les étudiants juifs ?
À l'image finalement des universités en France, ce qu'on voit depuis le 7 octobre, c'est une double dynamique. La première dynamique, c'est qu'on a toute une série d'étudiants issus d'organisations d'extrême gauche qui vont pointer du doigt de façon très violente les étudiants juifs. Il y a eu des actes de violence verbale et même physique, ça a été à Strasbourg, à l'endroit d'étudiants juifs de la part de militants de l'extrême gauche. Et ensuite, on a malheureusement la France insoumise et jusqu'à ses leaders et jusqu'à Jean-Luc Mélenchon qui viennent en nous traitant de racistes, en disant « Regardez ces dangereux sionistes qui sont complices d'un génocide », avec ce genre de propos, ils viennent valider des discours de haine. Et c'est bien ça, à mon avis, le souci.
Donc la question, c'est davantage de la surenchère, puisqu'en France, c'est pas interdit d'être pro-Palestine, c'est la surenchère de la France insoumise.
Absolument. Je n'ai jamais, et vous ne verrez jamais, l'UEJF dire « il ne faut pas de voix pro-palestinienne ». Bien au contraire, ce n'est absolument pas là le sujet. Ce que l'on ne veut pas, c'est qu'il y ait des gens qui viennent valider ou encourager des discours antisémites. Et c'est bien là ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, à l'université de Strasbourg, on a trois étudiants qui se sont fait agresser, passer à tabac, alors qu'ils collaient des affiches des visages des otages. On leur a dit « fasciste sioniste ». Et quand dans le même temps, on a un responsable politique de premier plan qui fait la tournée des universités en disant « regardez, il y a ici des sionistes qui sont complices d'un génocide », mais excusez-moi, moi je ne suis... Alors, déjà, il n'y a pas de génocide à Gaza, c'est une simplification des choses. La Cour internationale de justice a dit « risque de génocide », ce qui est quand même bien différent. Et ensuite, moi je ne suis pas israélien, je ne suis... je n'ai fait aucun acte qui puisse permettre à qui que ce soit de dire, de me mettre une responsabilité qui est juste une responsabilité liée à mon ethnie, à ma judaïté. Et bien ça s'appelle une dynamique antisémite et c'est celle-là que je dénonce. C'est pas le fait d'être pro-palestinien. J'aimerais être très clair sur ce point-là, parce que cette accusation, on nous dit que vous êtes, après l'affaire Sciences Po notamment, vous êtes des manipulateurs qui voulaient faire taire les voix pro-palestiniennes. Mais c'est une accusation qui est non seulement diffamatoire, mais absolument odieuse. Non, je ne veux pas faire taire les voix pro-palestiniennes, il faut qu'elles s'expriment, et c'est la moindre, je crois... c'est la moindre parole humaniste que de dire aujourd'hui qu'il se passe quelque chose de terrible à Gaza et que la population de Gaza est dans une situation dramatique.
Merci.
Et j'ai absolument jamais voulu faire taire cette voix.
Merci beaucoup Samuel Lejoyeux d'avoir été avec nous sur Europe 1, président de l'Union des étudiants juifs de France, pour cette annulation et ce sentiment des étudiants juifs dans les universités françaises et l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à Lille.